Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. 3 ans avant le bicentenaire de la Révolution française, sortait aux éditions Perrin un ouvrage qui allait faire scandale dans le monde universitaire, mais bien au-delà aussi dans le grand public. Ce livre intitulé « La Vendée vengée » comparait la guerre de Vendée à un génocide et la Première République française à une forme de totalitarisme. Issu d'une thèse, l'œuvre avait été soutenue par un certain Pierre Chaunu. Plus récemment, en 2008, la revue L'Histoire, qui fêtait ses 30 ans, reprenait dans son éphéméride le débat dans une notule. La polémique, écrivait la revue L'Histoire, a eu la vertu de fixer le bilan de cet épisode terrible et d'établir que le terme de génocide pour désigner cette guerre civile est historiquement injustifié. Fin de citation. Eh bien, nous nous permettrons dans cette émission d'Un jour dans l'Histoire de revenir sur cette polémique qui a une actualité littéraire. En effet, les éditions du Cerf viennent de publier, ou plutôt de rééditer, un texte du révolutionnaire Gracchus Babeuf sur la guerre de Vendée et le système de dépopulation, selon sa propre expression. Alors, la terreur en Vendée, génocide ou pas, précurseur des totalitarismes ou non, c'est ce que je vous propose de voir avec Reynald Secher. Reynald Secher, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, donc vous êtes docteur d'État. Vous avez été lauréat de l'Académie française. Vous avez reçu plusieurs prix pour votre œuvre, notamment le prix Hugues Capet. Je voudrais aussi signaler à nos auditeurs que vous faites un travail pédagogique auprès des jeunes, puisque vous êtes scénariste de bandes dessinées historiques, notamment l'histoire de la Bretagne. Alors, vous venez de présenter et d'annoter donc ce texte de Gracchus Babeuf. Vous venez de le faire avec un autre historien, Jean-Joël Bréjon, qui est spécialiste de Bonaparte notamment. Et ce texte de Gracchus Babeuf a été aussi introduit par le spécialiste du totalitarisme en France, Stéphane Courtois. Alors, ma première question, Reynald Secher, ma foi, sera assez simple. Ce sera une question, j'allais dire, purement juridique. Le terme de génocide a été défini, a été créé, forgé par un historien, un juriste polonais d'origine juive, Raphaël Lemkin. Et ce terme correspond à une réalité juridique. Est-ce que cette réalité juridique correspond à la réalité historique de la guerre de Vendée?
Lorsque Lemkin, qui est un juif polonais, prend conscience de l'atrocité des crimes commis par le national-socialisme, il réfléchit en tant que philosophe sur la nature de ces crimes. Et lui, il émet le principe que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un État conceptualise et fait réaliser l'extermination d'un groupe humain de type ethnique ou racial ou religieux. Et il va se poser le problème du vocabulaire. Pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Donc, il va créer un néologisme qui est le mot « génocide », ce mot qui sera repris, faute d'autres mots, par la Convention de Nuremberg et perpétué par la suite.
C'est du grec « génos », race, et du latin « cid », qui tue.
Absolument, qui tue. Alors, la Convention de Nuremberg a défini les crimes de génocide. Il n'y a pas un crime de génocide. Il y a 3 crime de génocide, qui est un crime d'ailleurs contre l'humanité, un des crimes contre l'humanité. Vous avez le premier crime, c'est la conception. Le deuxième crime, c'est la réalisation de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain, de type ethnique ou racial ou religieux. Et troisième crime de génocide, la complicité tant dans la conception que dans la réalisation de l'extermination partielle ou totale d'un groupe humain ethnique ou racial ou religieux. Puis après, le droit international et notamment le droit français va étendre ce principe aux crimes politiques. Donc le problème est de savoir si, oui ou non, il y a eu conception ou réalisation partielle ou totale ou complicité dans la conception, dans la réalisation de l'extermination partielle ou totale de la Vendée. Et est-ce que la Vendée constitue un groupe humain de type ethnique ou racial ou religieux ou politique. Alors, est-ce qu'il y a eu conception ? Oui, il y a eu conception puisqu'il y a loi. C'est la seule loi génocidaire de voter par un peuple souverain dans l'histoire de l'humanité qui décide l'anéantissement et l'extermination d'une partie de son territoire et d'une partie de sa population. Nous n'avons eu aucune loi de cette nature dans l'histoire de l'humanité. Je vous défie de m'en trouver une autre. Il y a donc bien conception, puisqu'il y a eu deux lois d'anéantissement et d'extermination en Vendée. La première loi date du 1er août 1793. Elle est double. On décide, on vote. Il n'y a pas eu un seul vote négatif ou une seule réaction négative ou un seul vote passif. Le principe que le territoire de la Vendée doit être détruit pour en faire une terre brûlée, pour faire crever la population. Et deuxièmement, de déporter cette population qui est idéologiquement indésirable sur le territoire de la Vendée afin de repeupler la Vendée par de bons citoyens régénérés.
D'où le terme de Vendée vengée.
C'est par la suite, ça. On échoue dans cette politique en raison du contexte, parce qu'on est dans la guerre civile. Et puis les Vendéens se battent. Et puis c'est dur de déplacer 815 000 habitants. C'est quasiment impossible, d'autant plus qu'ils refusent de se laisser déplacer. Donc on va décider le vote d'une deuxième loi qui part du principe que, puisque on ne peut pas déplacer la population, on maintient le principe de l'anéantissement de son territoire, on va exterminer, et le texte est d'une précision incroyable, je vous le lis, il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés. On fit même une échéance à la fin du mois d'octobre. Le salut de la patrie l'exige. L'impatience du peuple français le commande. Son courage doit l'accomplir. La reconnaissance nationale attend à cette époque tous ceux dont la valeur et le patriotisme auront affermi sans retour la liberté de la République. Donc c'est une loi votée. Avec une ambiguïté, qu'est-ce qu'on entend par le mot brigand ? C'est très clair pour les conventionnels, il s'agit bien de tous les Vendéens résidant en Vendée, de préférence les femmes et les enfants. Et d'ailleurs, les hommes chargés de cela vont demander une clarification sur la terminologie. On va lui répondre, on va répondre aux officiers en disant « mais je ne comprends pas où vous posez cette question, il s'agit de tous les habitants ». Ça y est, la conception elle est claire, puisqu'elle est votée, elle est matérialisée par l'écrit. Elle est votée, c'est indiscutable. Bien, publiée au journal officiel. Et dans cette logique d'anéantissement, on décide, c'est la troisième loi du 7 novembre, puisque la Vendée n'existe plus par nature, on va lui retirer son nom et on va substituer un autre nom qui est le département Vendée. Elle n'a même plus le droit au nom, puisqu'on va la régénérer par un repeuplement. Ensuite, ça c'est le premier crime, c'est la conception. Est-ce qu'il y a eu réalisation ? On a le plan. République française, liberté, fraternité, égalité, Thurot, général en chef des armées de l'Ouest, au législateur comprenant le comité de salut public. Au législateur, plus les membres du comité de salut public, c'est bien ça qu'il dit. 26 janvier 1794, citoyen républicain, j'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu de traverser la Vendée sur 12 colonnes. Si mes intentions sont bien secondées, il n'existera plus dans la Vendée sous 15 jours. Là encore, il y a une échéance. Ni maison, ni subsistance, ni armes, ni habitants. Ça ne peut pas être plus clair. Il y a donc bien volonté de réaliser, et c'est le général en chef, il a les moyens. Il a avec lui une armée de formée de 12 colonnes. Troisième crime de génocide. Est-ce qu'il y a complicité ? Par nature, puisque c'est l'ensemble de l'Assemblée nationale, en l'occurrence la Convention, qui vote. Et Thurot n'était pas seul, par nature, à mettre en œuvre le plan d'extermination. Donc c'est à la fois tout le gouvernement, tout l'Assemblée nationale, tout le corps politique, toute l'armée qui est concernée par la mise en œuvre. Donc il y a trois crimes de génocide. Et c'est sans doute un cas unique dans l'histoire de l'humanité. On a les preuves matérialisées par l'écrit, par le vote, de ce volonté d'exterminer, d'anéantir un territoire qui est parfaitement défini, 10 000 km², la population est dénombrée et la population est parfaitement ciblée. Elle n'a plus le droit à l'existence, le seul fait qu'elle existe, elle doit être exterminée. Il n'y a pas aucune possibilité pour elle de demander pardon, de faire un acte de contrition, de revenir. elle est devenue une population impure. Il faut donc la nettoyer. Tout ça, ce sont les mots utilisés par les révolutionnaires. Ça peut être un vocabulaire qui vous choque, mais ce sont une terminologie révolutionnaire. C'est une race impure, et parce qu'elle est impure, elle n'a plus le droit à l'existence. Et comme elle n'a plus le droit à l'existence, on va cibler de préférence ce qui permet la reproduction, c'est-à-dire la femme, et ce qui permet la survie biologique, mais aussi la survie de la mémoire, les enfants. Et c'est pour ça que tous les carottages que nous avons faits dans cette Vendée militaire, on prend des exemples très connus comme les Luxes au Boulogne, 80% des gens exterminés sont des femmes et des enfants. Ce n'est pas par hasard. Donc, c'est exactement la même chose qu'on a retrouvé ailleurs. Lénine, lorsqu'il décide d'exterminer des morceaux de son territoire, c'est la même chose. Staline, Hitler, Pol Pot, etc., c'est la même logique totalitaire. Nous sommes le peuple qui doit vivre, les autres, l'autre partie est le peuple qui n'a qu'un seul droit, celui d'être tué, de disparaître, de mourir. Donc, c'est un génocide.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que vous avez choisi un texte. Alors d'abord, est-ce que vous avez choisi ce texte de Babeuf ? Et pourquoi Babeuf ? Parce que Babeuf, j'allais dire pour le commun des mortels, Babeuf apparaît comme un des acteurs de la Révolution française et même comme un précurseur du socialisme.
Alors, vous avez raison, effectivement. Lorsque j'ai soutenu ma thèse, comme vous le rappeliez dans votre introduction avec Pierre Chenu et Jean Meyer, qui s'intitulait « Contribution à l'étude du génocide franco-français, la Vendée vengée ». Ce texte, à l'époque, avait suscité un grand émoi. Et entre autres, on disait qu'on ne pouvait pas utiliser rétroactivement le concept de génocide, d'autant plus qu'à l'époque des événements, on n'avait pas conscience de la spécificité du crime commis. Je ne vais pas parler de la notion de rétroactivité. Le droit international a tranché en la matière et l'Assemblée nationale elle-même a tranché en la matière puisque rétroactivement, on a reconnu, entre autres, le génocide arménien. Et puis, il y avait une énorme ambiguïté dans cette idée, c'est que comme le terme de génocide avait été défini et dicté pendant le génocide juif, ça veut dire qu'une partie du génocide juif n'aurait pas été considérée comme un génocide, ce qui était complètement aberrant. La notion de rétroactivité ne fonctionnait pas par nature. Alors, est-ce qu'il y avait une conscience de la spécificité du crime commis en Vendée ? Indiscutablement. Puisqu'on a décidé au sein de l'Assemblée nationale de l'époque, c'est-à-dire la Convention, de voter. Donc ça veut bien dire qu'on a une volonté clairement définie dans l'esprit, celui d'éradiquer tout un peuple. Et au-delà de tout cela, il y a eu un certain nombre d'historiens, de politiques, de militaires et de journalistes, dont Gracchus Babeuf, qui ont été bouleversés par ce qui était fait en Vendée. Et Babeuf, qui est effectivement un révolutionnaire et est considéré comme le père du communisme, si choqué qu'il se sent le besoin d'écrire ce livre qui est une commande. C'est Fouché qui est lui-même un criminel contre l'humanité. Son passage à Lyon a marqué le corps humain et le corps philosophique de Lyon qui s'en rappelle encore. Bien. Et il veut créer un bouc émissaire, en l'occurrence Carrier. Il veut l'entraîner devant les tribunaux pour crime contre l'humanité. Ce concept est parfaitement clair pour les juristes et les politiques à l'époque. Et Carrier va être condamné d'ailleurs pour crime contre l'humanité. Et Babeuf va rédiger cet ouvrage qui n'est pas un pamphlet, contrairement à ce que l'on peut imaginer, et qui va réaliser cet ouvrage à vif. Et c'est un ouvrage d'une incroyable profondeur et d'une incroyable justesse. C'est-à-dire qu'il conçoit parfaitement la spécificité du crime commis en Vendée et constate que le vocabulaire français n'a pas la terminologie adéquate. Donc il va créer des mots nouveaux comme nationicide, comme populicide, etc. Et d'ailleurs, ça nous ramène à Lemkin. Lorsque Lemkin écrit son ouvrage, il n'a pas la connaissance historique de ce qui s'est passé en Vendée. Ça veut dire que les problèmes auxquels se heurte Lemkin 150 ans après Babeuf sont exactement de même nature, devant les mêmes phénomènes, devant les mêmes constats, devant les mêmes raisonnements. Comment classer, comment appeler ces crimes spécifiques que tous deux considèrent comme uniques? En fait, si Babeuf était né 150 ans après, il aurait vu que ce crime n'était pas unique, puisque d'autres par la suite, comme Lénine, Staline et Hitler, en ont commis d'autres. Et puis plus tard, on aura Pol Pot, Mao, Chi Minh, etc. Bien. Des crimes d'État, toujours. Hein. Et Lemkin n'a pas cette connaissance historique. Et d'ailleurs, en 1936, vous avez un journaliste français, dont je ne me rappelle plus le nom, qui a conscience de ce qui est en train de se passer dans l'Allemagne nationale socialiste et qui écrit, j'ai publié ça dans le cadre d'un livre publié chez Orban, juif et vendéen, qui conçoit, qui voit, qui assiste à la mise en œuvre de la programmation, de l'extermination de tout ce qui est considéré par le national-socialiste de race secondaire et notamment de l'extermination juive. Et il écrit ceci, « Si les gens n'avaient pas oublié la Vendée, on aurait pu concevoir qu'un État puisse exterminer une partie de lui-même. »
Alors justement, cela nous renvoie aussi à l'idée de mémoricide, qui est un terme que vous utilisez. Nous y reviendrons après cette première pause.
Quelles seront les énergies exploitées d'ici 2050 pour contrer la pénurie de pétrole ? Nucléaire, bois de chauffage, biosphère, géothermie ou encore hydrogène, Bernard Tissot, membre de l'Académie des sciences, nous donne les détails de ces nouvelles énergies du futur sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Reynald Secher, historien, qui présente et annote une réédition, la réédition de l'ouvrage « La guerre de la Vendée et le système de dépopulation » donc du révolutionnaire Gracchus Babeuf. C'est un travail que vous avez réalisé, Reynald Secher, avec Jean-Joël Bréjon et introduit par donc, le spécialiste du totalitarisme en France, Stéphane Courtois. Alors nous avons défini, vous avez défini, Reynald Secher, ce concept de génocide appliqué à la Vendée et nous en sommes à la question de Babeuf. Donc pourquoi Babeuf ? Et au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire c'est une époque propre à la polémique, bien évidemment, à une déclamation oratoire très particulière. Et pourtant, le texte de Babeuf, il y a une véritable intelligence politique dans ce texte.
Absolument. C'est un travail humaniste, c'est-à-dire c'est la réaction d'un homme qui est meurtri, blessé dans sa pensée révolutionnaire, parce que pour lui la révolution ce n'est pas cela justement. Là, la mise en œuvre de la politique terroriste de la Convention se situe aux antipodes de sa pensée démocratique et il n'accepte pas qu'au nom d'une idéologie on puisse totalitaire, de nature totalitaire, on puisse être amené à exterminer, à interdire le droit à l'autre d'exister. Et ce qui est intéressant dans ce document, d'ailleurs je ne sais pas, c'est une interrogation que je me pose, c'est comment Babeuf, qui est acteur de l'histoire, qui est aussi témoin de cette histoire, a pu accéder à autant de documents. Et je suis bien placé pour le faire, puisque ces documents cités existent. Mais ils sont dispersés territorialement. Je ne comprends pas comment il a pu accéder à une telle densité de documents qui sont géographiquement éclatés, en tout cas à l'heure actuelle. Alors, ces documents, je les avais étudiés en son temps, lorsque j'avais fait ma thèse sur le génocide de la Vendée. Et ce travail sur le génocide de la Vendée est un travail universitaire qui s'appuie exclusivement sur les documents, rien que les documents, comme disait Jean Meyer, c'était vraiment une prescription, le document, rien que le document. Et donc, j'ai fouillé, j'ai retrouvé ces documents. Mais à l'époque, je ne connaissais pas le livre de Babeuf. D'ailleurs, il n'était pas connu. Et c'est tout à fait par hasard s'il a été découvert ou redécouvert par Jean-Joël Bréjon, qui à l'époque, à la suite de l'apparition de mon ouvrage, par hasard, me l'a notifié. Et je suis allé lire ce livre. Et j'ai découvert en fait la richesse incroyable de sa documentation, de même que son analyse. Et ça nous revient à une question que vous avez soulevée tout à l'heure. Est-ce qu'à l'époque, on avait conscience de la spécificité du crime ? Je vous avais répondu oui, au niveau politique, puisqu'on l'avait voté. Oui, aussi au niveau des militaires, puisque certains avaient dénoncé ce crime contre l'humanité. Mais oui, aussi au niveau d'un certain nombre de témoins oculaires, notamment comme Babeuf, qui écrit l'histoire, c'est un journaliste, et qui a parfaitement conscience de cette spécificité et qui la dénonce par le livre, par l'écriture, par le raisonnement, par les textes. Donc c'est un document juridique et malheureusement c'est un document qui est passé à la trappe de l'histoire et s'il n'avait pas été oublié, eh bien sans aucun doute il aurait pu influencer les contemporains de Lénine, de Staline ou d'Hitler qui auraient pu imaginer, concevoir, voir ce que ces dictateurs étaient en train de faire dans leur propre pays.
Mais effectivement, il fait même, j'allais dire, au-delà du travail d'historien, il fait même un travail sociologique que ne renieraient pas même des géographes aujourd'hui, de présentation de la population de la Vendée dans une première partie.
Absolument. Alors ça, c'est vraiment classique à l'époque. Hein. Lorsqu'on aborde un problème politique, juridique, économique, on présente les mœurs des populations. Ce n'est pas quelque chose qui lui est spécifique. Je dirais presque que c'est un aspect automatique des choses. On aime bien définir la matière sur laquelle on va œuvrer. Hein. Et d'ailleurs, c'est toujours le même vocabulaire, description des mœurs, etc. Ce qui, d'ailleurs, en termes de terminologie, nous surprend beaucoup. Hein. Mais c'est quelque chose d'usuel pour toutes les statistiques. On présente les gens sur ce que l'on croit être leur spécificité.
Alors, au-delà de cette présentation, il me semble important de revenir sur les causes de la guerre de la Vendée. C'est un point qu'analyse Babeuf et que vous reprenez, vous, dans votre introduction.
Oui, mais ce n'est pas des causes spécifiques à la Vendée. Vous savez, en mars 1793, lorsque la Vendée s'insurge, elle n'est pas unique dans cette insurrection. Grosso modo, c'est 60 à 65% du territoire national qui s'est insurgé contre Paris. Parce que Paris a mis en place une politique terroriste qui nie les droits fondamentaux des autres. Je prends des exemples très simples. Par exemple, le droit de parler une autre langue que le français. Alors, ça nous semble surprenant à l'heure actuelle. Mais à l'époque, qui parlait le français ? L'impôt qu'on a doublé, triplé, quadruplé, le service militaire obligatoire, etc. Les gens en ont ras-le-bol, tout simplement. Et ils s'insurgent pour obtenir le droit d'être, tout simplement. Donc, ce qui se passe en Vendée n'est pas une spécificité. La guerre civile en Vendée n'est pas une spécificité. Vous savez, la France est en guerre civile. La guerre civile, elle est plurielle. Nous l'avons en Bretagne, nous l'avons dans le Berry, nous l'avons en Normandie. On l'a un peu partout, la guerre civile. Ce n'est pas la guerre civile qui est spécifique en Vendée. Ce qui est spécifique en Vendée, c'est vraiment la mise en œuvre de l'extermination. Et si cette extermination avait réussi, et ce génocide avait très bien vu ça, c'est-à-dire s'il n'y avait pas eu Thermidor, il y aurait eu d'autres Vendées en France. C'est-à-dire la deuxième région qui était programmée pour être exterminée était la Bretagne. Et puis il y en aurait eu d'autres après.
Ouais.
D'ailleurs, si je me permets, cette horizontalité, cette programmation de l'extermination horizontale, elle était déjà réalisée au niveau vertical. Je vous signale que la Révolution en œuvre avait défini une hiérarchie de gens à éliminer prioritairement. Bien entendu, on commence par l'ali de la population, l'opium du peuple, c'est-à-dire le clergé, séculier comme régulier, la noblesse, etc. Et puis, petit à petit, une fois qu'on a décimé, à l'époque, on ne disait plus ces ordres, mais ces populations indésirables, on remontait pour arriver dans la race pure. La race pure, bien entendu, c'était Robespierre et son clan.
Il y a un terme très important qui rejoint un peu ce que vous venez de dire, c'est le terme même du titre, le système de dépopulation. Il y a l'idée de population, donc une idée géographique, vous venez de le spécifier en parlant de la Vendée et qui devait après, au-delà, pouvait s'étendre, j'allais dire, à la Bretagne. Parce que vous évoquiez par exemple tout à l'heure Lyon. Lyon, ce n'est pas un génocide.
Non.
On ne peut pas considérer cela comme un génocide parce qu'il n'y a pas cette idée de population cantonnée, de géographie ?
Non, il n'y a pas d'idée. Si, à Lyon, il y a bien une idée, un concept de géographie, mais pas l'idée d'exterminer, d'éradiquer la population de Lyon. Il y a une idée de punir la population, de la décimer, mais pas d'éradiquer. En Vendée, il s'agit bien d'éradiquer, de rayer. Le Vendéen n'a plus le droit à l'existence. Le Lyonnais a le droit à l'existence parce qu'on lui donne le droit d'être régénéré. Mais pas les Vendéens.
Mais alors, justement, c'est ce qu'il y a d'étonnant, d'ailleurs dans le livre de Babeuf, c'est que des républicains, des Vendéens républicains sont touchés par cette extermination.
Oui, parce que le seul fait qu'ils soient Vendéens, ils sont souillés. La souillure est absolue. C'est une matrice. La Vendée est vraiment conçue comme une matrice. Et lorsque le texte de Thurau dit « il s'agit d'exterminer tous les habitants », c'est vraiment le fruit de la loi. Le fruit de la réflexion, le seul fait de résider en Vendée, ou le seul fait d'être Vendéen, vous êtes automatiquement condamné à mort. Je vous prends un exemple. Cette décision votée, elle est reprise par les conseils généraux. Exemple, l'Eure, le département de l'Eure, a programmé l'extermination de tous les Vendéens résidant sur son territoire. Ça veut dire qu'il s'agit bien d'éradiquer du peuple de France, le Vendéen. C'est clair. Et ça veut dire que ce n'est pas seulement une histoire qui concerne le territoire géographique de la Vendée militaire, qui est réparti entre Nantes et Angers, Angers, Bressuire, Bressuire, les Sables-d'Olonne. C'est aussi au-delà. Mmh. C'est-à-dire les Vendéens qui sont dans le département de l'Eure se doient d'être éliminés. Vous voyez ? Et on a d'autres exemples à travers la France, mais le département de l'Eure a voté cela.
Dans l'idée de dépopulation, il y a une idée par opposition ou en miroir qu'il y a trop de personnes sur un territoire. Et une des raisons évoquées par Babeuf, c'est qu'une des raisons de ce plan, puisqu'il y a plan, c'est tout simplement qu'il n'y a pas assez de nourriture sur le territoire français pour tout le monde et qu'en conséquence, il faut réduire cette population.
Oui, alors ça, c'est la thèse de Malthus qui était, comment dire, connue et diffusée à l'époque. Effectivement, on craint pour la survie de la population en raison de la crise alimentaire. Et évidemment, il faut d'abord éliminer pour que les autres puissent manger les bouches inutiles. Bon, alors les bouches inutiles, en l'occurrence, ils sont géographiquement définis, ce sont les Vendéens. Bon, c'est une possibilité. C'est la première et dernière fois que j'ai vu un auteur citer cela, en l'occurrence Babeuf. Je n'ai pas trouvé cela ailleurs. Je ne sais pas s'il faut retenir cet argument. Je ne sais pas si cet argument ne lui est pas propre. Je ne sais pas si Robespierre y a pensé. Robespierre a une approche, tout ce que j'ai pu retrouver sur Robespierre et le comité de salut public, exclusivement idéologique.
C'est ce qui montre que votre démarche est bien celle d'un historien. Et vous citez ces milliers d'ouvrages qui existent sur la Vendée, qui au fond défendent une thèse ou bien l'autre, mais ce ne sont pas des travaux d'historien.
Alors, jusqu'à ma thèse, en fait, il faut bien préciser que ce soit les partisans de la répression en Vendée. J'aime pas utiliser le mot républicain en l'occurrence. Je préfère le mot partisan de l'État fort. Hein. Et la révision de l'histoire, d'ailleurs, n'est pas liée à la République française. Hein. La révision de l'histoire de la Vendée commence avec la monarchie de Juillet. C'est le fait du pouvoir central. C'est ce que disait Taine en 1884. Une fois les témoins oculaires morts, on pouvait manipuler l'histoire. D'ailleurs, c'est le même phénomène qu'on a pour les témoins du génocide juif ou du génocide cambodgien, etc. C'est-à-dire, tant que les témoins oculaires sont présents, ils peuvent défendre leur mémoire, ils peuvent défendre les faits. Mais une fois qu'ils sont morts, tout ça devient très fragile. Ça me rappelle une histoire qui m'avait bouleversé aux États-Unis. Je travaillais dans un hôtel juif et un soir de sabbat, j'ai entendu des pleurs et je suis allé voir qui pleurait. C'était un vieillard qui venait d'avoir une discussion avec son petit-fils. Ils avaient parlé de la Shoah. Et il avait été bouleversé parce que son petit-fils était incapable d'imaginer ce qu'était la Shoah. Et il me disait, tu vois, là, une fois que ce numéro sur mon bras aura disparu, qui pourra croire l'énormité du génocide commis par les nazis? Mais en Vendée, c'est la même chose. Taine l'a parfaitement vu en 1884, mais d'autres témoins, à partir de 1830, dénoncent le révisionnisme de l'État. Et d'ailleurs, c'est pour empêcher cela que Louis XVIII et Charles X ont stimulé la rédaction d'un certain nombre d'écrits de la part des survivants, afin que cela ne s'oublie pas. Et d'ailleurs, c'est une des causes avancées par Babeuf pour son livre, en disant qu'il faut que les gens sachent ce qui s'est réellement passé en Vendée et qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas pour ne pas oublier. On n'oublie pas pour que cela ne se renouvelle pas. Et d'ailleurs, Lemkin dit exactement la même chose. Tous les grands auteurs qui ont réfléchi sur ces crimes contre l'humanité sont travaillés par le même problème. Il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier pour que cela ne se renouvelle pas. Et malheureusement, l'homme est l'homme et on oublie.
Je reçois Reynald Secher, historien, qui a présenté et annoté avec Jean-Joël Bréjon le livre de Gracchus Babeuf, La guerre de la Vendée et le système de dépopulation, un ouvrage dans la collection L'Histoire à vif, paru aux éditions du Cerf. Nous nous retrouvons après cette deuxième pause.
Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la guerre de la Vendée à travers la réédition du livre de Gracchus Babeuf, donc du révolutionnaire Gracchus Babeuf, qui s'est penché sur le sort de la Vendée, le système de dépopulation, tel est son titre. Et je reçois au micro de Canal Académie l'historien Reynald Secher qui a présenté et annoté avec Jean-Joël Bréjon cet ouvrage, un ouvrage également introduit par le spécialiste des totalitarismes Stéphane Courtois. Alors nous avons évoqué avec vous, Reynald Secher, la définition du génocide. Nous avons aussi évoqué la particularité véritable de la Vendée qui nous amène ici à parler de génocide. Pourquoi Babeuf s'est penché sur ces questions? Je voudrais un peu m'attarder sur les moyens. J'ai été complètement surpris, même abasourdi, de voir que certains moyens, au fond, aurait pu être utilisé si les techniques avaient été meilleures et finalement les techniques qui vont être testées à la fin du XVIIIe siècle sont des techniques qui vont être utilisées beaucoup plus tard au XXe siècle, notamment dans l'utilisation du gaz. Vous présentez un personnage qui soutient devant la Convention qu'il peut exterminer des populations entières grâce à un gaz en lançant une boule de cuir. Voilà.
Alors, la problématique, elle est très simple. Il s'agit d'anéantir un territoire de 10 000 km², ça c'est très simple. Il suffit de mettre le feu, de couper les bois, ça c'est simple. Bon, c'est la politique, ce qu'on appelle la politique de terre brûlée. Exterminer 815 000 habitants, c'est beaucoup plus difficile. C'est la première fois qu'on conceptualise cela. Et la mise en œuvre d'une telle politique est nouvelle. Donc on va tatillonner, on ne sait pas comment faire. Et en fait, il y a trois étapes. La première étape, c'est l'utilisation de moyens classiques. Bon, la guillotine, les noyades, les fusillades.
Mais la guillotine coûte cher, vous le dites.
Alors, il y a deux problèmes par rapport à tout cela. C'est la lenteur de la chose. Vous savez, le record journalier de la guillotine, je crois que c'est 33 têtes. C'est très lent, la guillotine. Et c'est le coût. C'est un coût énorme. On n'imagine pas le coût que cela représente. Vous savez, quand on coule un bateau au centre de la Loire, le bateau coûte 2000 francs. Et il est irrécupérable. Alors, on a même l'idée d'utiliser les bateaux comme chambre d'asphyxie. C'est-à-dire qu'on met les femmes et les enfants dans le bateau, on calfeutre les orifices et puis ils meurent asphyxiés. Et il y a une pétition de la part des habitants du quai de la Fosse à Nantes, pétition adressée au maire de Nantes en disant « C'est scandaleux, c'est inadmissible, le râle des mourants nous empêche de dormir ». Donc on va arrêter cela. Vous savez, les fusillades, ça coûte très cher. L'éclatement des crânes à coups de crosse, c'est un coût énorme parce que les Vendéens ont la tête dure. Les crosses explosent. Donc on se dit, il faut rationaliser ça. Il faut exterminer à grande échelle,
c'est le côté
à moindre
industriel.
Coût. C'est le côté industriel, à moindre coût et systématiquement. Et pour ce faire, on va avoir trois grandes idées. La première idée, c'est de miner le territoire de la Vendée militaire. Miner, c'est-à-dire qu'on met des mines antipersonnelles ici et là. Mais à l'époque, et pas plus que maintenant, on a trouvé la mine intelligente, celle qui va exploser sous le mauvais, celui qu'on considère être le mauvais. La deuxième idée, c'est l'empoisonnement à grande échelle, à coup d'arsenic, le pain, l'eau, l'alcool. Mais là aussi, c'est très compliqué la mise en œuvre. On constate bien qu'il y a de l'arsenic, des fourgons entiers d'arsenic qui ont été trouvés par les Vendéens qui se posent la question de savoir à quoi cela allait servir. Puis ça, cette idée du gaz, c'est-à-dire que de gazer la population. Et Fourcroy, qui est le grand chimiste à la fin du XVIIIe siècle, est sollicité pour cela. Et puis, il ne va pas trouver la solution. Puis, il y a des petits malins. Il y a toujours le petit génie vertueux. Et en l'occurrence, il y a un pharmacien au Pont-de-Cé qui s'appelle Proust qui dit « Moi, j'ai trouvé la solution et on va faire des essais, en tout cas un essai au Pont-de-Cé. » Et en fait, le rapport dit que ni les conventionnels, ni les moutons sur lesquels l'essai a été fait, conventionnels présents, n'ont été incommodés. Donc, échec et gaz. Et c'est pour ça qu'on va arriver à cette troisième solution, qui est le plan dit de Thurot, qui est le plan d'extermination. Ce que vous disiez tout à l'heure est juste, c'est-à-dire ces moyens ont été mis en œuvre plus tard. Le premier à les avoir mis en œuvre, je le rappelle, c'est Lénine. Mais il ne faut pas oublier que Lénine était très intéressé par l'histoire de la Vendée et que Lénine a passé des vacances en Vendée et que Lénine savait parfaitement ce qui s'était passé en Vendée. Et c'est si vrai d'ailleurs qu'il a utilisé les méthodes utilisées par les révolutionnaires vis-à-vis de la Vendée. Et ce n'est pas par hasard s'il appelle d'ailleurs les lieux qu'il extermine Vendée. Ce n'est pas du tout par hasard. Hein. Je me souviens d'un reportage d'un film que j'ai fait il y a un an pour la première chaîne de télévision russe. C'était pour l'affaire de Tambov. Il ne comprenait pas pourquoi Lénine appelait Tambov Vendée. Donc le journaliste chargé de faire un reportage là-dessus avait sollicité l'université russe qui leur avait expliqué que c'était une région, en France. Alors ils avaient sollicité des universitaires français qui leur avaient expliqué que c'était des mauvais Français qui avaient osé s'insurger contre le bon révolutionnaire Robespierre. Alors ils avaient été très choqués par cela en disant mais comment est-ce qu'on peut dire que Robespierre est un bon Français puisque son fils c'est Lénine et Lénine c'est pas un bon Russe. Et puis les habitants de Tambov ce sont les Vendéens. Et ils sont arrivés à moi et je leur et expliquer ça. Et on a fait un film qui fait correspondre les deux histoires. Et c'est incroyablement similaire dans la réalisation de l'extermination et aussi dans la terminologie utilisée, brigands, etc., etc. Donc, Lénine est vraiment le fils de Robespierre, comme Staline, comme Hitler, etc. Il y a une filiation directe, comme Pol Pot, Ho Chi Minh, qui sont venus étudier cela en France. Il ne faut pas oublier que Pol Pot a séjourné longuement en France et son héros est Robespierre. Bon, on pourra en citer d'autres, Mao, etc. Bien. Donc, il y a vraiment une filiation. La Vendée est une matrice. C'est une matrice en absolu. C'est la première fois. C'est un laboratoire. Je rappelle que si Robespierre était resté au pouvoir, la méthode utilisée en Vendée aurait été exportée dans d'autres provinces françaises, la première étant géographiquement définie, puisque c'était le nord de la Loire, en l'occurrence la Bretagne. Bien. Donc tout ça, c'est clair. C'est une matrice absolue et relative. C'est-à-dire qu'à partir de cette matrice, de cette méthode, eh bien, on va l'utiliser avec une petite nuance. On sait qu'il ne faut pas laisser d'écrits. Parce que lorsque Robespierre tombe, les députés, les hommes politiques sont bouleversés parce qu'ils se disent « Mais le monde va savoir ce que nous avons fait, ce crime contre l'humanité. » Mais aussi les générations futures vont le savoir. Donc, il faut gommer ça dans notre histoire. Donc, nous donnons l'ordre de détruire tous les papiers relatifs à cette histoire. Et on a un écrit extraordinaire. Cela s'oubliera avec le temps. Manque de peau. Ils ont oublié deux choses. La première, c'est que les lois votées sont publiées au journal officiel. Donc, il aurait fallu détruire tous les journaux officiels, ce qui était impossible. Puis, deuxièmement, Robespierre a tellement peur, se méfie tellement des généraux, qu'il a demandé à chaque général qui a œuvré en Vendée de rédiger de manière journalière un double rapport. Un, envoyé au pouvoir politique, c'est-à-dire à la Convention et au comité de salut public, et l'autre au ministère de la guerre. Lorsque Robespierre tombe, les papiers politiques sont détruits, pour la plus grande partie. Mais on a oublié de donner les ordres aux militaires. C'est un militaire qui ne reçoit pas d'ordre n'a aucune raison d'obéir, par nature. Donc ce qu'ont fait ces militaires, ils ont pris leurs documents, puis tout naturellement les ont déposés dans leurs archives. Et c'est là où je les ai retrouvés. Je prends un exemple. Le texte de Thurot, la lettre de Thurot, la lettre originale de Thurot.
Que vous publiez dans...
Que je publie, puisqu'il y a des universitaires français qui ont osé dire, qui osent encore dire, qui sont des purs révisionnistes, négationnistes, que ces documents n'existent pas, qu'il n'y a pas de loi d'extermination ou d'anéantissement, qu'il n'y a pas de lettre Thurot expliquant son plan d'extermination. Et c'est pour ça qu'il faut les publier, ces documents, en disant non, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit de nier ce qui est écrit. C'est visible. Et c'est pour ça que je suis parfaitement conscient que lorsque j'écris en disant que Thurot a écrit son plan, que les gens ne sont pas forcés de me croire, d'autant plus qu'on leur dit que c'est faux. Et c'est pour ça qu'il faut publier. Et c'est pour ça que j'ai publié. C'est la première fois que c'est publié. D'où le bouleversement. C'est vrai que c'est surprenant de voir la lettre officielle envoyée par Thurot, et je comprends que cela choque, mais c'est le document. Armée de l'Ouest, République française, liberté, fraternité, égalité, Thurot, général en chef de l'armée de l'Ouest, j'ai commencé l'exécution du plan que j'avais conçu et qu'il l'écrit au nom de la République. Je comprends que ça soit choquant, mais c'est la vérité. Et donc, il faut la dire. Alors, reste un problème qui n'est pas un petit problème. C'est le problème de la loi. Il y a trois lois de voter d'anéantissement et d'extermination.
Elles n'ont jamais été abrogées.
Elles n'ont jamais été abrogées. Et elles sont donc toujours dans notre arsenal juridique. Alors on va me dire, oui, mais elles sont tombées en désuétude. Peut-être, mais aussi peut-être pas. Et je rappelle toujours que lorsqu'on a décidé la déportation des Juifs, on a senti la nécessité de chercher un support juridique. On a cherché et on l'a trouvé au sein des lois votées en 1790. On a déporté les Juifs en se basant sur des lois datées de 1790. Comme quoi, à circonstances exceptionnelles, moyens exceptionnels. Donc il faut les abroger. Les abroger parce que c'est incroyable que dans notre arsenal juridique, il existe ce genre de loi. Et nous, qui passons notre temps, c'est-à-dire la France, à donner des leçons au monde, entre autres à demander à la Turquie de reconnaître le génocide arménien, on n'est même pas capable d'abroger une loi génocidaire. Puis je crois qu'il y a une notion de justice. Il faut dire la vérité. Il faut que les Vendéens sachent pourquoi, qu'est-ce qui leur est arrivé. Il faut qu'ils le sachent. Il faut que les Français apprennent leur histoire. Il est inadmissible de lire ce qu'on lit dans les livres scolaires. Je vais vous prendre un exemple qui est bouleversant. Je vais vous prendre l'exemple d'un écrit d'un universitaire français dans un document pédagogique distribué à tous les professeurs relatif à la guerre de Vendée. Et vous avez une image représentant les noyades de Nantes, dit de Carrier. Et voilà le texte qu'il a écrit. Dans l'hiver, les partisans de la terreur noyèrent des prisonniers. Ces procédés brutaux, je dis bien brutaux, c'est ce qu'il écrit, cet universitaire, furent condamnés par la plupart des républicains dans les mois qui suivirent. Ils furent au XIXe siècle l'occasion d'une propagande politique dirigée contre la République. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est plus l'acte d'exterminer les gens qui est à dénoncer. C'est le fait qu'on s'en souvienne. Et tout naturellement, on arrive à la réhabilitation de Carrier à Nantes, en parlant de légendes noires, etc. Et on va jusqu'à nier la réalité de l'extermination en disant « il n'y a jamais eu de génocide ». Et je vous prends ce qu'écrit toujours ce même universitaire, c'est du pur révisionnisme, du pur négationnisme. Certains parlent improprement de génocide. En fait, il n'y eut pas de plan de destruction, mais un délire politique pendant quelques mois de 1793 à 1794, autorisant des mesures menées de façon incohérente. La destruction était le fait politique d'une partie des révolutionnaires. Elle a été condamnée et arrêtée par d'autres révolutionnaires opposés à ces pratiques. Parler de génocide, c'est ne pas voir que près de la moitié de la France a été rangée dans la contre-révolution et punie. C'est insoutenable, c'est intolérable. Comment peut-on écrire cela? Comment peut-on dire « mais il n'y a jamais eu de plan d'extermination » alors qu'on a l'écrit, on a les lois, et on a l'écrit de celui qui dit « voilà mon plan d'extermination ». Et on dit « mais non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est faux. » C'est du négationnisme. Eh bien, ce qui arrive à la Vendée est en train d'arriver à d'autres crimes de génocide. C'est-à-dire ces méthodes négationnistes, révisionnistes, sont utilisées pour d'autres, par d'autres, pour nier le génocide juif, par exemple. Ce qui est intolérable. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Donc il y a une vérité indiscutable pour la Vendée. Il faut la dire. Je crois que c'est dans l'honneur qu'il faut le faire. Il est temps, 200 ans après les événements, de dire enfin la vérité aux Français, de dire la vérité aux Vendéens, de dire, ben voilà, c'est la République française qui a décidé de vous exterminer. Et nous, eh bien, on veut enfin reconnaître ça. Ce n'est pas une loi mémorielle, on abroge. À travers l'abrogation, eh bien, on fait œuvre de mémoire et on vous permet de mieux comprendre ce qui vous est arrivé.
Eh bien, c'est sur cette leçon de compréhension, cette leçon d'histoire et de mémoire, Reynald Secher, que nous allons nous quitter. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous venez donc de présenter et d'annoter le livre, la réédition du livre de Gracchus Babeuf, « La guerre de la Vendée et le système de dépopulation ». C'est un travail que vous avez réalisé avec Jean-Joël Bréjon, lui-même historien, et un travail introduit par Stéphane Courtois. Je me permets également de citer, puisque nous en avons longuement parlé, le livre de Raphaël Lemkin. Il s'agit là aussi d'une réédition. Qu'est-ce qu'un génocide? C'est un ouvrage qui a été publié au mois de janvier 2008 aux éditions du Rocher. Merci beaucoup. Restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.